BSR Apéro. Bienvenue à tous, merci d'être là ce matin. On est ravis d'accueillir Monsieur Jacques Légeret, qui va nous parler donc de l'énigme Amish. Juste deux mots pour vous donner la date du prochain BSR Apéro, notre café littéraire. Donc la première date de 2020, ce sera le 25 janvier. On recevra Stéphanie Pahu, donc qui est linguiste et qui nous parlera de notre rapport au corps. Merci beaucoup et bonne conférence.
Donc je tiens encore une fois à préciser que je ne suis pas un spécialiste des Amish. Il y a des spécialistes aux États-Unis, des vrais spécialistes, des sociologues mennonites, notamment qui ont beaucoup étudié les Amish depuis des années. Il y a des livres qui sortent chaque année aux États-Unis qui sont bien meilleurs que les miens. Mais les miens ont l'avantage d'être écrits en français. Mais je suis par contre, alors avec ma femme, nous sommes des témoins privilégiés de la vie des Amish, puisque nous avons été adoptés par une famille Amish pour des circonstances familiales très particulières. Et là, je vais parler un petit peu de notre vie familiale pendant 2-3 minutes pour vous raconter l'histoire. Notre fils David est né en 1982, polyhandicapé, au CHUV. Il avait une espérance de vie de 15 mois et... Quand on nous a annoncé ça, moi j'étais journaliste, ma femme était enseignante dans un collège, on s'est dit, puisqu'on a fait en sorte que David vienne au monde, on va rester avec lui jusqu'à son décès. Et on a arrêté de travailler, moi j'ai arrêté d'être journaliste, Catherine a arrêté l'enseignement, et puis nous sommes restés avec David. Il a eu 15 mois, il a eu 17 mois, 18 mois, 20 mois, et il était toujours là. Alors un jour on s'est dit, mais... Il faut qu'on s'occupe de lui. Il était drogué à mort, entre guillemets, hein, parce qu'il avait tellement de convulsions, tellement de spasmes, qu'il fallait faire quelque chose. Et nous sommes allés aux États-Unis, à Philadelphie, dans la clinique de Glendoman, où nous allions 4 fois par année pour apprendre la rééducation neurologique de David. Il était aveugle, il ne l'est plus, mais il est toujours un polyhandicapé très, 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 très gravement atteint. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, David a 37 ans. Donc, et nous le gardons toujours à la maison. Et je dois ici remercier, il n'y a personne qui représente le canton de Vaud. Quand même, l'état de Vaud nous a beaucoup aidés et a fait en sorte que nous avons pu scolariser David à la maison grâce à Marc Wicht, qui nous a soutenus pendant des années. Et puis ensuite, le canton de Vaud a continué à nous aider. Et les journalistes vaudois et les journalistes suisses, pendant 4 ans, nous ont aussi aidés financièrement parce que nous n'avions plus de salaire. Voilà. Et à Philadelphie, nous étions toute la journée, enfin toute la semaine dans la clinique pour apprendre de la réhabilitation neurologique. C'était ultra intensif. À titre d'exemple, David devait porter des masques qui lui permettent d'avaler son CO2. Ce qui dilatait les vaisseaux sanguins, de telle sorte que pendant 5 minutes, il avait beaucoup d'oxygène qui arrivait au cerveau. Il fallait mettre 80 masques par jour. Donc, vous voyez, on était toutes les 5 minutes, on mettait un masque à David. Entre deux, on lui faisait on lui apprenait à lire, à écrire. Enfin, c'était intensif. On avait besoin de beaucoup de monde, évidemment. J'habite Podé. Enfin, nous habitions Podé. Et la moitié du village de Podé venait chez nous pour nous aider, pour faire des exercices. C'était une aventure incroyable. Et donc, étant à Philadelphie, les 5 jours de la semaine, on apprenait ces techniques de réhabilitation neurologique, et puis le samedi et le dimanche, on était libre. Et la première communauté Amish est à environ 2 heures de voiture de Philadelphie. Un jour, nous sommes arrivés chez les Amish. Et nous portions, je portais David très facilement, aujourd'hui j'ai de la peine. et je portais David comme ça, et puis on a frappé à une ferme Amish. C'était chez Barbara et John Fisher. Et tout de suite, les portes sont ouvertes. On a été accueillis, c'est le rêve total de tous les touristes. Hein. Mais les touristes ne sont pas accueillis chez les Amish qui essayent de tenir le monde à distance, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et puis, Là, on a été accueillis, on s'est dit, mais pourquoi? Enfin, c'était quoi ce privilège qui faisait que nous étions accueillis de cette manière-là? Vivre chez les amis, participer à toutes leurs activités. Et c'est parce que nous avons un fils spécial qui s'appelle God's Special Child, un enfant spécial de Dieu, et que pour eux, nous sommes des parents privilégiés, parce que Dieu nous a choisis pour s'occuper d'un enfant comme celui-là. Eux, ils font la même chose. Hein. Donc nous étions sur la même longueur d'onde. Eux, avec leur handicapé, avec leur polyhandicapé, mais avec les anciens, ils font la même chose. Il est exclu de mettre une personne âgée, 80 ans, 90 ans, quel que soit le handicap, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes qu'elle pose, cette personne-là restera toujours à la maison. Il y a toujours assez de monde pour s'occuper de ces gens-là. Pour eux, c'est normal. C'est même pas un devoir. C'est un privilège d'avoir des gens à problème chez soi. Donc, vous voyez, on était dans un monde complètement différent du nôtre, déjà. Hein. Et déjà du monde américain. J'ai toujours, il y a deux mondes. Il y a le monde américain, c'est ceci. Et puis, il y a le monde amish, c'est exactement l'inverse. Un grand spécialiste américain qui s'appelle Donald Crabill. Si vous lisez l'anglais, il faut lire ses livres. C'est vraiment... D'ailleurs, un de ses livres est traduit en français, en plus. Et moi, je traduisais ses... Quand il vient en Europe, je traduis ses conférences. Donald Crabill, d'un jour, il me disait, mais les Amish, c'est une sous-culture de la culture américaine. Je lui dis, non, écoute, Donald, moi, je ne suis pas aussi spécialiste que toi, mais je peux dire que c'est une contre-culture de la culture américaine. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, d'habitude, je fais des conférences avec des diapos. J'ai 150 diapos environ. C'est des images quasiment uniques, toutes, puisqu'on a pu vivre à l'intérieur et que les Amish refusent les photos. Donc, pour des raisons religieuses, ils refusent que l'on fasse des photos. Mais nous, étant acceptés, étant presque considérés comme des Amish, j'ai pu faire des photos extraordinaires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de photos. Je vais vous emmener dans les fermes Amish, essayer d'illustrer ce que je ne peux pas montrer. Mais un jour, à Nantes, dans un château, magnifique château, je faisais une exposition de quilt Amish, et avant la conférence, il y a une dame qui se plante devant moi puis qui me dit, elle savait tout sur les Amish avant que j'aie ouvert le bec. Donc, elle me dit, ah, c'est vous qui allez faire cette conférence sur cette tribu de nains américains qui fabriquent des kilts. Je lui dis, alors là, elle a un problème, cette dame. Et la seule chose qui était juste dans sa phrase, c'était l'adjectif américain. Parce que les Amish, en effet, sont américains aujourd'hui. Ce n'est pas une tribu, hein, donc ils ne vivent pas comme les Indiens parqués dans des tribus. Non, ils vivent mélangé avec les Américains, au milieu, les Amish ne vivent que dans des fermes. Ces fermes sont mélangées au milieu, à côté des fermes Amish, à côté des fermes Mennonites et tout. Donc ils ne vivent pas du tout en tribu. Ils sont aujourd'hui 330 000 dans les États-Unis, dans 32 États des États-Unis. Ils sont organisés en districts religieux. Un district religieux, c'est 25 à 35 familles. Et comme une famille a en moyenne 10 enfants, vous pouvez imaginer dans un district religieux combien il y a de résidents. Moi, je ne sais plus où j'en suis maintenant. Vous voyez, donc ah oui, la femme. Les kilts. Donc les nains. Il n'y a pas plus de nains chez les Amish que chez les Américains. Donc elle faisait allusion d'une manière indirecte à la consanguinité qui peut exister chez les Amish. Et puis, ils ne fabriquent pas du tout des kilts, qui sont des jupes écossaises, mais des quilts. Pour répondre à votre question, monsieur, des quilts, ce sont des patchworks surpiqués. Un patchwork, c'est qu'on prend des morceaux de tissu, ou bien des chutes de tissu, ou bien on achète des tissus pour former des dessins. Et ce sont des couvertures de lit. Et il y a des couvertures de lit à deux couches, et il faut faire tenir ces couches, il faut piquer les deux couches, du verbe anglais to quilt, piquer. Donc, c'est la couture de deux quilts qui fait, de deux tissus qui fait le quilt. Et les quilts divers, c'est trois couches. Mais le problème est toujours le même. Il faut toujours surpiquer ces deux ou ces trois couches, d'où le nom quilt. Et aux États-Unis, c'est un art très, très populaire dans toutes les familles américaines. Il y a des quilts des Noirs américains, il y a des quilts des Amish, enfin, il y a des musées de quilts. Donc, c'est un art de la décoration très, très prisé aux États-Unis. Alors voilà, fin de la parenthèse sur les quilts, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc je me suis dit, il faut remonter la pente maintenant, des préjugés. Donc une fois, cette dame disait, c'était tellement erroné ce qu'elle disait. Et c'est là que je me suis dit, il faut écrire des livres. Et j'ai commencé à écrire mon premier livre, et heureusement, parce que ça a continué les préjugés. Notamment la télévision française, Des racines et des ailes, a a fait, il y a quelques temps après mon livre, une émission sur les Amish. On peut avoir une opinion différente sur les Amish. On peut trouver qu'ils vivent d'une manière passéiste, rétrograde, tout ce que vous voulez, qu'ils sont bizarres, exotiques, ce que vous voulez. Mais les erreurs de fait, ce n'est pas acceptable. Donc il y avait 40 erreurs de fait dans cette émission de télévision de la TV française. Et j'ai protesté, j'ai écrit une lettre très polie à la télévision française. Et en même temps que moi, un Alsacien, un théologien alsacien, qui s'appelle Claude Bécher, on ne s'était pas consulté, il a aussi écrit à la télévision française. Quel a été le résultat de nos interventions? Eh bien, 4 mois plus tard, la télévision française a republié ce reportage sans aucune correction. Donc c'est quand même... oui, c'était, je me suis dit, t'as vraiment du travail. C'est pour ça que je fais beaucoup de conférences en France, notamment en Italie, en Allemagne, en Espagne, un peu partout, quoi. Donc maintenant, je vais vous emmener un petit peu dans les fermes Amish. Et puis je vais vous proposer une chose assez particulière. C'est un service religieux Amish. Alors vous êtes des Amish, hein, donc vous êtes les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et moi je suis le ministre du culte. Je suis le minuscule, et vous devez m'écouter vraiment avec attention parce que j'apporte la vérité, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que j'apporte la vérité? C'est parce que j'ai été désigné par Dieu par un processus très spécial qu'on appelle la loterie divine. Et ça, j'en parlerai, je ne sais pas si j'en aurai le temps de parler, mais je l'explique assez longuement dans mon livre. C'est un processus qui fait par tirage au sort, disant voilà que j'ai été désigné par, et choisi par Dieu pour vous parler. Encore une fois, donc je ne suis pas du tout ni Amish ni théologien, j'ai pas été dire. J'essaye de vous expliquer comment ça se passe. Comme il a été désigné par Dieu, il n'a pas fait d'études. Hein, c'est un paysan qui n'a pas fait d'études, rien du tout. Il a fait 8 années scolaires comme tous les Amish, mais il a été choisi par la communauté dans un processus de loterie. Et comme il a été désigné par le Très-Puissant, quand je ne sais plus où j'en suis dans mes conférences, j'ai une petite note là pour, voyons, qu'est-ce que je dois dire? Un ministre Amish, il n'a pas le droit de faire ça. Ce serait une preuve d'orgueil. S'il a été désigné, il doit pouvoir parler. Alors, ils ont des trucs, parce que souvent, ils sont un peu aussi comme moi, tout à coup, ils savent plus où ils en sont. Alors, ils ont droit à 2 aides. C'est un verre d'eau, voilà. Et comme il fait très chaud souvent, un bandana, j'ai oublié un bandana, pour gagner du temps. Et même quand il ne transpire pas, un ministre du culte, c'est un spectacle assez étonnant. Et il fait ça, il réfléchit en gagnant du temps. Je suis le premier ministre du culte qui vous parle de ce culte. Avant que j'aie pris la parole, il y aura quand même eu une séance de chant qui dure 1 heure. Et c'est très important, c'est ce qu'ils appellent un loblit, donc un chant de grâce. Parce que, au même moment, c'est très important dans toutes les communautés Amish, au même moment, dans tous les États-Unis, il y a un service religieux. Il commence à la même heure. Et pour les Amish, ils savent que les Amish de l'Ohio, de l'Indiana, du Canada, ils chantent le même chant en même temps. C'est pour renforcer cet esprit de communauté. Une fois que ce chant, qui dure donc 1 heure, je peux vous dire tout de suite pourquoi. Pourquoi il dure 1 heure? C'est parce que ils ont un livre de chants, qui est des chants qui datent de la réforme protestante, ça s'appelle le Hausbund. C'est un livre de chants dans lequel il n'y a pas de notes. Et puis la moyenne des strophes, c'est 20 à 25 strophes. Et là, j'en ai un où il y en a une, page 241, il y a 33 strophes. Mais pourquoi ça dure si longtemps? C'est parce qu'ils ont une manière de chanter, il n'y a pas de musique d'ailleurs, d'abord. Il y a ce qu'on appelle un four singer. C'est-à-dire quelqu'un qui va entonner le chant. Il va chanter la première voyelle, mais d'une manière très, très spéciale. Et là, je ne suis pas un bon chanteur, mais je vais quand même vous montrer, vous dire, vous expliquer comment ça se passe. Par exemple, la phrase « Ver Jesum at hum Jesum lebt », ils vont le chanter de cette manière-là. Ver. Donc, c'est le ver. Hein. Et puis, ensuite, tout le monde va entonner la suite de la phrase d'une manière très, très lente. Il y a une raison très spéciale à ça, c'est que durant les persécutions qu'ils ont vécues en Europe, ils chantaient déjà ces hymnes qui se sont transmis hein, de père en fils et de livre en livre. Leurs geôliers en Suisse et en Autriche et en Allemagne se moquaient des Amish en dansant quand ils chantaient leurs hymnes. Donc ils ont créé ce qui s'appelle aujourd'hui les slow tunes, les mélodies lentes. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que chaque chant peut avoir 2, 3 ou 4 mélodies différentes. Donc le four singer, il a une importance incroyable dans ces communautés. Là, donc un chant peut durer jusqu'à 1 heure, surtout le premier. Ensuite, je vais parler en tant que ministre du culte, je vais parler pendant 3 quarts d'heure. Et puis après, il y aura de nouveau des prières. Les prières sont silencieuses, toujours. Et puis ensuite, il y aura un deuxième ministre du culte, qui sera de nouveau moi, mais en l'occurrence, puisque je suis le seul ici, et qui lui, va parler pendant 1 heure 3 quarts. Alors moi, je vous propose une chose, c'est que je vais calquer ma présentation sur un, si vous êtes d'accord, hein, sur un service religieux Amish. Et puis le total, ça dure 4 heures, donc on sera là à 2 heures encore. Si vous êtes d'accord, ou bien je raccourcis. Bon, je raccourcis. Donc vous voyez, c'est déjà avec la description du culte, on est dans un monde différent. On est dans un monde différent du nôtre, différent du monde américain. Alors, maintenant, on va rentrer dans une ferme Amish. En général, en moyenne, aujourd'hui encore, il y a 10 enfants par famille. Donc c'est très important. Parce que quand il y a autant d'enfants, autant de cousins, autant de cousines, il se met en place l'entraide Amish. Donc, quand il y a un problème dans une ferme Amish, dans une famille Amish, il y a toujours quelqu'un pour aider. Il y a toujours un cousin, une cousine, c'est incroyable. Quand il y a un décès, si un paysan décède, par exemple, sa ferme est prise en charge pendant 6 mois par les voisins, jusqu'à ce que tout soit remis en place. Il n'y a pas d'assurance. Ils sont contre les assurances. Il n'y a pas d'assurance maladie. Mais leur assurance, à eux, c'est l'entraide Amish. C'est extraordinaire à voir. Je me souviens une fois, j'étais à Argentan-sur-Creuse, dans un musée, faire une présentation, et celui qui me présentait, c'était Michel Sapin, qui était ministre des Finances, je crois, de Hollande. Et puis je lui expliquais, monsieur le ministre, si les Amish étaient restés en Suisse, en Europe, en France plus particulièrement, puisqu'ils sont originaires de France aussi, vous ne seriez pas ministre, parce que les Amish, ils n'ont pas besoin de ministre des Finances. Hein, vous ne seriez pas ministre de la Sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas de Sécurité sociale, ils refusent toutes les assurances. Vous ne seriez pas ministre de la Défense, parce que ils sont non-violents. Donc, vous seriez ministre nulle part avec les Amish. J'étais un petit peu surpris. Il l'a bien pris, il m'a quand même offert un verre à boire après. Tout s'est bien passé. Et alors, dans ces fermes, c'est organisé de telle sorte, c'est un monde patriarcal. Assez étonnant, évidemment, ils lisent la Bible d'une manière très littérale. La Bible dit que la femme soit soumise à l'homme comme l'homme est soumis à Dieu. Donc, il y a une hiérarchie. Hein. Mais cette hiérarchie, vous ne la sentez pas tellement, dans la mesure où... Quand ils doivent prendre une décision au sein de la famille, et c'est une famille élargie, hein, tous ceux qui sont baptisés ont le droit de vote. Donc, les femmes, elles ont déjà le droit de vote depuis toujours. Tandis que vous, en Suisse romande, nous, en Suisse romande, vous avez le droit de vote depuis 1972, je crois, n'est-ce pas ? Et les femmes Amish, depuis toujours, elles ont le droit de vote, elles ont le droit de prendre des décisions. Leur avis n'a pas la même importance que celui des hommes, bien sûr, mais puisqu'elles votent, elles ont quand même une voix prépondérante dans les décisions qui sont prises. C'est quand même très important parce que, comme les Amish refusent beaucoup de la technologie moderne, lorsqu'il y a quelque chose qui intéresse les femmes, elles peuvent faire pencher la balance donc, contre l'avis des hommes, ce qui est assez étonnant dans une société qui lit la Bible aussi littéralement. Donc, la plupart des Amish sont paysans aujourd'hui. Selon les spécialistes, ce sont les meilleurs agriculteurs au monde. Je n'en sais rien, mais c'est ce qui m'a été expliqué, mais je crois que c'est vrai. Donc, il n'y a pas de tracteur. On n'utilise jamais des tracteurs dans ces fermes. Pourquoi ? Parce que le tracteur va compacter la terre. Et la terre, c'est l'outil que Dieu a donné à l'homme. Donc, il n'est pas possible d'aller avec un tracteur. Et si vous allez vous balader dans ces dans ces régions-là, vous verrez des tracteurs dans les fermes amish, puis vous vous direz, ouais, les gérés nous a raconté n'importe quoi. Non, ces tracteurs sont utilisés uniquement pour faire des travaux autour de la ferme, et surtout pour monter des grosses charges. Sinon, c'est uniquement le cheval. Et là, vous avez des choses extraordinaires à voir. En général, une ferme amish a 12 chevaux, ou des mulets, ça dépend. Des mules, pas des mulets, des mules. Et c'est des percherons. Je ne sais pas si vous voyez déjà vu des percherons. Il y a des photos de percherons que j'ai là. Vous pouvez voir un paysan amish avec 6 percherons et qui est en train de. Il est debout sur sa charrue et il est en train de travailler le terrain. C'est des spectacles extraordinaires. Et c'est assez étonnant parce que les percherons, si vous connaissez un petit peu l'histoire américaine, c'est eux en fait qui ont gagné la guerre civile aux États-Unis. C'est parce que les nordistes avaient importé des percherons, ou bien des belges aussi, on appelle ça des percherons belges, ils sont bruns, les percherons du Perche français sont noirs. C'est des chevaux colossaux qui ont une force extraordinaire, qui sont magnifiques, ils ont des petites jupettes au bas des talons, là des sabots plutôt. Donc c'est extraordinaire à voir. Et toutes les fermes amish ont ça, donc, parce que c'est le seul moyen de respecter la terre. Donc vous voyez, on est aussi dans un monde assez extraordinaire. Ils font très attention aussi, ils ne font pas du bio. Ils ne font pas du bio où on le fait chez nous. Mais ils font très attention, ils savent très bien les problèmes que peuvent apporter les pesticides. Donc ils sont très très prudents. Mais depuis quelques années, il y a beaucoup de paysans amish qui font du bio. Par contre, où ils font du bio, c'est dans leur jardin. Et leur jardin, les jardins amish, ce n'est pas les petits jardins comme chez nous. Donc, un jardin amish est suffisamment grand pour qu'on travaille avec des chevaux, hein, et des charrues. Donc, mais chaque ferme a un jardin immense. Et dans la mesure du possible, on essaye de manger avec ce qui se trouve dans le jardin. Mais les amish ne vivent pas en autarcie, ce qu'on raconte très souvent. Non, ils vivent dans une certaine autonomie. Ce qu'ils n'ont pas, ils l'achètent aux Américains. Mais quand vous êtes invité dans une ferme amish, disons chez les Kings, alors vous aurez, par exemple, ce sera la saison des petits pois, c'est délicieux, ils cuisent les petits pois au lait, c'est vraiment très très bon, je vous assure. Et puis vous aurez des fraises, et puis enfin d'autres choses, vous aurez un menu typique. Et puis quand le lendemain vous allez chez les Miller, on vous dira, mais hier tu étais chez les Kings, tu as mangé des petits pois et puis des fraises. Donc vous voyez, tout le monde, on mange selon ce qu'il y a dans la saison, donc. La seule chose qui est différente, c'est que quand vous êtes invité dans une famille, et que vous êtes une famille amish, vous arrivez avec votre pain, vous faites votre propre pain, et vous amenez votre propre pain dans une famille qui elle-même fait son propre pain. Donc ça, c'est assez symbolique. Vous amenez le pain, bien sûr, c'est un symbole que je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Alors, dans la cuisine, c'est évidemment la femme qui est maîtresse de maison, bien sûr. C'est elle qui décide tout. C'est elle qui décide tout de ce qu'il y a du jardin, alors que l'homme décide tout ce qu'il y a dans les champs. Tout ce qui concerne la ferme directement, l'étable, c'est un travail de l'homme. Mais les femmes, elles travaillent quand même dans l'étable, elles travaillent quand même à l'écurie, elles travaillent quand même dans les champs. Donc, c'est vraiment des piliers, de mon point de vue, et pas seulement du mien d'ailleurs, des sociologues qui ont étudié ça, c'est des piliers de la ferme amish. Alors, elles sont maîtresses de leur maison, bien sûr, de leur cuisine. Elles sont maîtresses de tout ce qui est à l'intérieur. Et puis, elles font une cuisine assez extraordinaire. Mais, quand vous avez 20 ou 25 personnes autour de la table, il faut faire des gros plats, n'est-ce pas, des immenses plats. Et c'est toujours trop, trop cuit. Trop trop sucré, trop trop gras. Donc sur le plan diététique, c'est pas très bon. Mais sur le plan goûteux, c'est extraordinaire, je veux dire. Moi, par exemple, j'adore ce qui s'appelle le chicken pot pie. C'est une sorte de prendre une grosse marmite comme ça, puis on met une couche de pâte maison. Ils font les pâtes maison eux-mêmes. On met une couche de leeks. Madiana, les leeks, c'est du poireau, une couche de poulet, une couche de poireau, une couche de pâte, etc. Une couche comme ça, puis on cuit ça 3-4 heures. Mais c'est absolument délicieux, je vous assure. Malheureusement, comme la famille chez qui nous vivons, elle sait que j'adore ça. Chaque fois que j'arrive, c'est le chicken pot pie, quoi. Mais c'est très bon, je suis très content chaque fois. Mais j'aimerais manger autre chose des fois. Mais alors, pour ça, je vais dans d'autres familles, bien sûr. Alors, maintenant, l'école, il y a, si vous vous promenez, vous verrez la petite maison dans la prairie. Vous verrez autour du. Dans un district, il y a toujours une école. Cette école, elle est à distance, plus ou moins équidistante de toutes les fermes, de telle sorte que les enfants peuvent aller à pied à l'école. Ça arrive que ce soit un peu trop loin, dans ce cas-là, on va à cheval, où les parents les amènent avec un buggy. Le buggy, c'est une carriole, c'est une calèche couverte, complètement couverte, qui peut être de couleurs différentes, suivant les états, suivant les districts dans lesquels on se trouve. Mais la calèche, elle est en général noire et blanche. Dans certaines districts religieux, elle peut être rouge. Elle peut être sans toit. Ça dépend les règles différentes de chaque communauté. Alors, les enfants vont, été comme hiver, à pied à l'école. Et par exemple, quand il y a des chutes de neige très, très violentes aux États-Unis, les écoles américaines ferment parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tous, sauf les Amish. Et là, ils sont... La fierté, c'est pas quelque chose d'Amish, mais il y a toujours des petits. Alors, vos écoles sont fermées. Sous-entendu, vous, les Américains, avec votre technologie extraordinaire, vous n'êtes pas fichus d'envoyer vos enfants à l'école quand il y a un peu de neige. Et c'est, donc, cette école, c'est vraiment la petite maison dans la prairie. Il y a 8 grilles scolaires seulement. Il y a une rangée de la 8e année. 7e année, 6e année, etc. C'est, les élèves sont seuls à un pupitre. Et il faut voir l'organisation, c'est extraordinaire de voir ce qui se passe dans ces salles. Je le dis, c'est extraordinaire parce que ma femme, elle est enseignante. Enfin, elle était enseignante. Alors, on a visité beaucoup d'écoles. On a eu ce privilège-là, ce que le touriste ne peut pas le faire. Quand on est amené avec une famille amiche, on peut assister aux cours. Il y a toujours un banc derrière, où les parents amish peuvent venir pour surveiller ce qui se passe dans la salle. Donc il y a un contrôle qui est fait en permanence. Les maîtres d'école ne sont pas diplômés, ils n'ont pas fait d'études du tout. Ils ont été choisis par chaque communauté parce qu'on les considère comme de bons amish. Il n'y a qu'une seule condition, il faut être diplômé. Et il faut être, pas diplômé, il faut être baptisé. Et il y a 8 années scolaires. Et quand vous les voyez travailler... Vous avez les 8e qui aident les 7e, qui aident les 6e. C'est incroyable. Il y a un silence extraordinaire. Et puis la maîtresse, elle utilise des moyens pédagogiques assez étonnants. Par exemple, pour le calcul, ils ont des sortes de tableaux en papier, en carton ici. Puis on apprend aux enfants les additions, les divisions, les soustractions. Et la maîtresse prend dans un coin chacun des élèves les uns après les autres. Puis elle leur fait faire des calculs comme ça dans un coin, par exemple. C'est dit, mais attendez, c'est vraiment pourquoi ces enfants sont tellement silencieux, il y a quelque chose qui ne joue pas, quoi. Chez les nôtres, c'est impensable, quoi. Pensez bien. Et puis on se dit, non, mais c'est pas normal, ça. Et puis tout à coup, il y a la récré, au bout de 2h30, il y a la récré, puis ils vont dehors, et puis tout à coup, vous découvrez, ils sont comme les nôtres. Ils shootent, ils crient et ils jurent en Pennsylvania Dutch. Ils sont vraiment comme les autres. Par contre, qu'ils ont appris, mais ils l'ont appris par l'exemple, n'est-ce pas? Parce que tout l'enseignement se fait par l'exemple. L'enseignement religieux, la même chose. Il n'y a pas d'enseignement religieux qui est fait tel quel. Non, c'est tout par l'exemple. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Alors, j'ai emmené récemment un ami à nous qui est doyen, qui était doyen parce qu'il est à la retraite maintenant, mais il était doyen au collège Arnold Raymond. On a fait le tour des amis amish. Puis un jour, je lui dis, écoute, j'ai organisé une visite dans une ferme, dans une école amish. On ira voir demain, on se lève à 6h et puis on sera à 7h à l'école. Puis il me dit, oh non, mais arrête, écoute, moi j'en ai marre. Je fais de l'enseignement toute la journée, je dois organiser les programmes, appuyer. Enfin, je dis, écoute, elle a organisé ça pour nous, on va y aller, puis on restera jusqu'à la récré, puis après on part. On dit, bon, ok. Ah oui, il a accepté. Alors on est allé à la récré. Je lui dis, ben viens, on part, mais non. Puis il me dit, non. Je veux voir la suite. Alors, il était tellement stupéfait de voir cette organisation, de voir comment ça se passait. Mais il y a quand même un problème. Il y a eu un problème. Il n'y a que 8 années scolaires. Et la loi américaine oblige d'avoir 9 années scolaires. Et dans les années 1920, les Amish allaient dans les écoles américaines. Mais ça leur déplaisait souverainement parce qu'on leur enseignait trop de choses que eux considèrent comme inutiles. Notamment la gymnastique, l'éducation sexuelle, enfin la science, vous voyez, la science, pour des gens qui lisent la Bible d'une manière littérale, c'était pas acceptable. Alors ils ont créé les premières écoles amish. Mais ça posait le problème, d'abord, qui était l'IPROF, hein? Ce n'était pas acceptable pour l'État américain que, étant bon ami, on pouvait être enseignant. Et puis, il manquait une année scolaire. Ça fait qu'il a commencé la bagarre entre les Amish et les gouvernements américains. Je dis les gouvernements américains parce que chaque État a des règles un peu différentes en matière scolaire. Dans l'Ohio, c'est différent de la Pennsylvanie, etc. Mais les parents Amish insistaient et envoyaient leurs enfants dans ces écoles. Et notamment dans l'État de l'Ohio, là où il y a le plus d'Amish, on mettait les pères en prison parce qu'ils envoyaient leurs enfants dans des écoles Amish. Alors les Amish ne se rebellaient pas, ils allaient en prison, ils disaient c'est normal qu'un chrétien soit persécuté, donc ça fait partie de notre vie de chrétien. Donc voilà, ça. Et ça a duré jusqu'en 1972, jusqu'à ce que là, à ce moment-là, il y a un avocat américain qui a porté la cause des Amish devant la justice suprême des États-Unis, qui a décidé en faveur des Amish, que les Amish avaient le droit d'avoir leurs écoles. Ce qui a ouvert la porte à toutes les sectes Amish qui, eux, aussi ont le droit d'avoir leurs propres écoles aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ces sectes américaines prolifèrent parce qu'elles ont le droit d'avoir leurs propres écoles. Mais j'ai traduit le jugement de la Cour suprême des États-Unis, enfin une partie, je ne vais pas vous infliger la traduction entière, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a eu une réaction en Suisse à la suite de ce jugement. Je vais juste en lire un petit peu. Donc, 1972, c'est un extrait hein, de Warren Burger, qui était le Chief Justice, donc le patron en chef de la justice américaine, qui a dit « L'éducation supérieure tend à mettre en valeur l'accomplissement scientifique et intellectuel, l'accomplissement de soi-même, la compétitivité, le succès et la vie sociale avec d'autres étudiants. La société Amish privilégie l'apprentissage informel par le savoir-faire, une vie de bonté plutôt qu'une vie intellectuelle. Elle préfère la sagesse à la connaissance technique, le bien-être commun à la compétition. Elle met l'accent sur la séparation du monde, c'est très important ça, plutôt que sur l'intégration au monde contemporain. » Et il a poursuivi « Nous ne devons pas oublier qu'au Moyen-Âge, d'importantes valeurs de la civilisation occidentale ont été préservés par des membres d'ordre religieux qui se protégeaient eux-mêmes de toutes les influences mondaines par l'isolement. » Et alors, ça a eu une petite répercussion en Suisse que je vais aussi vous lire, puis il y aura une petite énigme que vous devrez résoudre. Un écrivain suisse qui, ayant lu ce jugement, il a écrit un livre sur l'éducation. Je vous lis quatre lignes de son livre. Une façon de vivre qui nous paraît étrange et même erratique, mais qui n'interfère pas avec les droits ou les intérêts d'autrui, ne saurait être condamnée parce qu'elle est différente. Et rien ne nous permet de présumer que la majorité actuelle a raison de vivre comme elle vit et que les Amish ont tort de mener leur vie comme ils l'amènent. C'est quand même, ça nous interpelle quand même pas mal. Et c'est un écrivain suisse dans un livre... dont j'ai oublié le titre, trois pamphlets pédagogiques, 1972. Madiana, tu ne dis pas qui c'est. Hein, vous savez qui a écrit ça? C'est un écrivain très célèbre que malheureusement, on ne lit plus aujourd'hui. Oui, monsieur? Non. Presque. Allez-y. Bon, tant mieux comme ça, pendant ce temps, je peux boire un petit coup. Très célèbre. Vous allez dire, ah oui, bien sûr, mais c'est Denis de Rougemont. Oui. Vous voyez, j'ai pu prévoir votre réaction. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les Amish veulent vivre... et là, je suis obligé de faire un petit cours d'histoire. Je suis désolé parce que c'est partie de cette histoire suisse que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas avant, que très très peu de monde connaissent, que quelques théologiens protestants connaissent un peu. Il faut savoir pourquoi les Amish veulent vivre séparés du monde et vivre de cette manière. Eh bien, retournons à 1525 à Zurich. 1525, Zwingli a imposé la réforme en 1520. Ça s'est passé plus ou moins bien. Il y a eu des disputations, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de problèmes. Et autour de Zwingli, il y a quelques intellectuels, des gens qui avaient étudié à Pise, qui avaient étudié à Paris, qui avaient étudié en Amérique, pas en Amérique, en Allemagne, qui parlaient le latin, le grec, donc vraiment des gens ultra compétents. Puis ils disent à Zwingli, écoute, dans ta réforme, tu n'as pas été assez loin dans certains domaines. Par exemple, il faut absolument que l'État et l'Église soient séparés. On est en 1525. Hein. Première chose, séparation totale de l'État et de l'Église. Deuxième chose, en tant que chrétien, la non-violence doit être absolue. On est en 1525, quand je rappelle les guerres qu'il y avait à l'époque. Non-violence absolue. Et si on met en pratique la non-violence, en même temps, on ne va pas payer les impôts militaires, qui était quand même assez inacceptable pour les autorités zurichoises. Et puis, il y avait encore une dispute, alors qu'une dispute théologique. Ils disent à Zwingli, mais nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'il faille baptiser les enfants. Nulle part. Et là, je vais juste vous lire un tout petit passage, hein, parce que n'étant pas théologien, j'arrive pas trop bien à résumer. Je ne sais pas où il est. De Konrad Grebel, qui était un de ces intellectuels autour de Zwingli. Tous les enfants qui ne sont pas encore en âge de connaître la différence entre le bien et le mal et qui n'ont pas encore goûté à l'arbre de la connaissance seront certainement sauvés grâce aux souffrances du Christ. Si le Christ n'avait pas souffert, ils auraient été sujets à la mort et à la damnation. Nous considérons donc que les enfants n'ont pas besoin de la foi pour être sauvés. Donc, nous en concluons que le baptême des enfants n'a pas de sens, qu'il est une abomination blasphématoire des Écritures. C'est très fort comme phrase, une abomination blasphématoire. Donc, Zwingli, il n'accepte pas ça. Hein. Il dit non, il faut baptiser les enfants pour des raisons religieuses, mais il y avait d'autres raisons. C'est que vous étiez citoyen de l'endroit où vous étiez baptisé. Si vous n'étiez pas baptisé à Berne ou à Zurich, comme ça, vous étiez citoyen de nulle part. Donc, par rapport à l'armée, c'était pas possible, c'était inacceptable. Mais quand on y pense, et à ma connaissance, mais je suis pas un spécialiste, encore une fois, je crois que c'est la première fois qu'un groupement organisé demandait la liberté de conscience. Ce qui, pour aujourd'hui, c'est assez banal, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Donc, puisque c'était révolutionnaire, les persécutions ont commencé très très vite. En janvier 1525, quelques-uns de ces réformateurs radicaux se réunissent et se rebaptisent entre eux. On les a appelés les anabaptistes. Anna, de nouveau, baptéine, c'est du grec, baptisé à nouveau. Mais dans les semaines qui ont suivi, le mouvement a pris de l'ampleur dans la campagne zurichoise et dans la campagne bernoise. Mais en même temps, les persécutions ont commencé d'une manière, d'une violence inouïe. Autant les protestants que les catholiques ont persécuté les anabaptistes, c'était facile de les arrêter d'abord puisqu'ils étaient habillés spécialement, comme les Amish aujourd'hui, on les reconnaissait de loin, qu'ils étaient non-violents et qu'ils se laissaient faire. Et l'édit de Spire et Charles Quint ont autorisé l'arrestation des anabaptistes et la mise à mort sans jugement. On les mettait à mort de deux manières. Les femmes, on les brûlait, prioritairement. Les hommes, on les attachait pieds et mains, on les jetait dans l'Ar ou dans le Rhin ou dans le lac de Constance en leur disant « Tu voulais être baptisé deux fois, nous allons te baptiser une troisième fois. » Cette période-là, elle est restée gravée dans la mémoire collective des Amish. Ils ont trois livres de chevet. Ils ont l'Ausbund, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les livres de chants, qui racontent les persécutions subies en Europe. Ils ont la Bible, bien sûr, et ils ont le miroir des martyrs. Vous en avez ici un petit résumé, c'est pour les touristes et pour les enfants. Et dans ces livres, c'est probablement les premières bandes dessinées, avant Töpffer, hein, les premières bandes dessinées, c'est un graveur hollandais qui a gravé l'histoire du martyr des anabaptistes de France, de Hollande, de Suisse. Et c'est très, très spectaculaire au niveau des images. Vous pourrez regarder ça tout à l'heure. Et ça, c'est un petit livre. Donc, ça, c'est pas le livre de chevet, ça, c'est plutôt pour les enfants. Et le livre de chevet, il est là. Voilà l'histoire des martyrs. Vous voyez, je ne sais pas combien, 1000, je ne sais pas combien de pages. Je n'ai même jamais regardé. Oui, 1200 pages. Il y a ces fameuses, il y a les six fameuses reproductions. C'est l'histoire des martyrs, le premier martyr étant Jésus-Christ. Ensuite, il y en a un deuxième, Saint-Étienne. Et puis après, il y a toutes les histoires des martyrs qui s'est passé en Suisse, en France et en Allemagne. Et ça, c'est le livre. Et ce livre leur dit une chose. Vous pourrez le voir hein, tout à l'heure. Le monde est dangereux. Il faut le tenir à distance. Donc, ils ont vraiment intériorisé cette notion-là. Et en plus de ça, ils font une lecture de la Bible, encore une fois littérale, qui dit « Ne vous conformez pas au monde. Soyez des pèlerins dans ce monde de passage. Soyez de passage comme des pèlerins dans ce monde. » Donc, si vous posez la question à un ami, il est capable de vous dire beaucoup de citations de la Bible qui justifient cette mise à distance du monde qui est dangereux. Ils ne le jugent pas, ils ne le jugent jamais. Simplement, ils disent, votre manière de vivre ne convient pas à ce que nous croyons, nous. Alors, ils sont parfois en contradiction avec la loi américaine, forcément, puisqu'ils obéissent à la loi américaine, mais ils obéissent aussi à leur loi à eux. Et cette loi à eux, ça s'appelle leur nom. C'est les règles Amish. Leur nom, il y a quelques lettres écrites au XVIe et XVIIe siècle en Europe, elles sont écrites. Et après, il n'y a plus rien d'écrit. Ce sont des règles qui s'accumulent petit à petit au cours des années, au cours des siècles. C'est les règles de la vie de tous les jours. Et pour l'enfant Amish, leur nom, c'est ainsi que le monde est, c'est ainsi qu'il doit être. On n'a pas besoin d'expliquer aux enfants Amish parce qu'ils voient bien, par l'exemple quotidien, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Et puis, quand il y a eu le monde moderne qui est arrivé, avec la technologie moderne, évidemment, cette ordonnance a dû être précisée, parce qu'il y a des choses qui sont acceptables pour les Amish et des choses qui sont inacceptables. Alors, l'ordonnance, c'est la règle de vie. C'est le moteur de la vie Amish. Et puis, un moteur, il a besoin de quoi? Un moteur, il a besoin d'essence. Et l'essence, c'est la Gelassenheit. C'est un mot allemand qui veut dire... vous dire beaucoup de choses. Modestie, c'est une manière d'être. Voilà, c'est une manière d'être, de ne pas se rebeller contre le destin, de ne pas se mettre en avant, d'être modeste. C'est vraiment ce qui décrit le mieux le sens qu'il donne à la Gelassenheit. Quand une femme amiche fait des quilts, elle fait jamais des quilts pour se mettre en valeur elle-même, n'est-ce pas? Elles font pas une création comme une femme en Europe ferait en voulant faire des choses extraordinaires. Ce serait contraire à la Gelassenheit. Cette modestie qu'on exige de tous les amis. Voilà, c'est très important de toujours avoir à l'idée cette notion de Gelassenheit. Alors, ils vont discuter quand il y a une nouvelle technologie. Donc, ils refusent pas la technologie moderne, comme on raconte n'importe où. Ils en font un choix sélectif, ce qui est légèrement différent. Je vais vous donner quelques exemples. L'automobile, ils ont compris très vite, hein, c'est la mobilité pour soi-même, automobile. Donc ils ont interdit l'automobile parce que ça allait permettre aux jeunes Amish d'aller au contact du monde américain et de revenir avec des idées qui pouvaient mettre en danger la communauté. Donc ça a été interdit très rapidement dès que les automobiles sont apparus aux États-Unis. Mais un Amish, il a le droit de monter dans une automobile. Pour aller chez le dentiste, pour aller, je sais pas, en ville. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'automobile. Il va demander à un voisin américain ou un voisin mennonite de le conduire. Et puis, ou bien un mariage, ils vont beaucoup à des mariages ou à des enterrements. Dans d'autres états, des fois, il y a 600 kilomètres. Donc, vous ne pouvez pas aller à cheval, hein, ce n'est pas possible. Alors, ils engagent ce qui s'appelle des chauffeurs d'Amish, n'est-ce pas? Qui conduisent les Amish avec les voitures. Je parlais une fois avec le fameux Donald Crable, puis il me disait, écoute, Jacques, tu vois, aux États-Unis, moi, j'arrive à prévoir ce qui va se passer dans notre pays dans 5 générations. La moitié de la population sera Amish, puis l'autre moitié conducteur d'Amish. C'était un peu une blague, bien sûr. Mais voilà. Et maintenant, donc là, ils ont discuté, oui, on a le droit d'aller dans une voiture, mais on n'a pas le droit de la conduire. Puis après, s'est posé la question des entreprises Amish. Ils sont très entreprenants, ils sont des travailleurs extraordinaires, notamment dans le travail du bois, construction des maisons, peinture des maisons, des trucs comme ça. Alors, ils créent des entreprises. Et puis, ils engagent des ouvriers américains. Et donc, ils ont besoin de voitures. Alors, ils vont acheter la voiture. Ça, ils ont le droit. Mais ils ont dû discuter longtemps. Mais c'est un des ouvriers qui va conduire la voiture. Donc ça, c'est un compromis. Il y a des compromis que les Amish s'autorisent. Et il y a des compromis que l'État américain force les Amish à accepter. Par exemple, l'électricité publique, les Amish la refusent totalement parce que c'est l'irruption du monde extérieur dans la communauté Amish, bien sûr, avec des idées qui pourraient mettre en danger la communauté. Mais l'électricité elle-même n'est pas mauvaise. Donc on va utiliser une certaine électricité. C'est ce qu'on appelle l'électricité Amish. C'est tout bêtement la lampe de poche. C'est le moteur diesel qui permet de faire de l'électricité. Parce qu'avec le moteur diesel, vous n'êtes pas directement dépendant du monde américain, encore une fois. Tenons-le le plus loin possible, mais on peut quand même utiliser ce qu'il y a de bon dans ce monde américain. Et dans les années 1970, l'État américain est arrivé, est venu chez les Amish et leur dit, écoutez, vous vendez du lait, c'est la culture principale, c'est le maïs pour les vaches, et puis le lait, évidemment, c'est le revenu principal, numéro un. Mais votre lait, il est dans des immenses citernes. Puis avec la chaleur qu'il fait en été, en Pennsylvanie, en Ohio, ça pose problème. Donc il faut réfrigérer ça. OK ? Alors ça, ils pouvaient réfrigérer avec les moteurs diesel. Mais après, les Américains leur ont dit, mais attendez, le lait réfrigéré dans ces immenses cuves, il faut non seulement qu'il soit réfrigéré, mais il faut qu'il soit remué. Alors, comment est-ce qu'on remue 5000 litres de lait ? C'est pas facile. Donc, voilà. Et la solution, c'était d'avoir des pales qui sont posées au milieu et puis qui marchent comme ça. Mais marchent comment ? Avec une batterie de 6 volts, ça ne va pas. Ce n'est pas assez puissant. Il fallait une batterie de 12 volts. Donc, les Amish ont discuté pendant des années jusqu'à ce qu'un jour, ils acceptent une batterie de 12 volts. Pourquoi une batterie de 12 volts était inacceptable ? Parce que ça pouvait permettre, par exemple, de brancher une radio. Oui, donc irruption du monde extérieur dans la ferme. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Alors, ils ont, par exemple, pour le téléphone, ils ont été les premiers agriculteurs à accepter le téléphone. C'était utile, hein, 1910, pour appeler le vétérinaire, pour appeler les pompiers, parce que toutes les fermes Amish sont en bois. Donc, il y a souvent des feux qui prennent, toute la ferme y passe. Alors, ils ont accepté le téléphone, installation du téléphone. Au bout de 6 mois, ils se sont dit, alors là, il y a un problème. C'est l'irruption du monde extérieur vers nous, sans contrôle aucun. On peut se téléphoner pour se demander comment on va. Et puis, on peut parler avec n'importe qui de l'extérieur. Donc, ils ont interdit le téléphone. Et puis, c'est quand même des Suisses, à l'origine. Ils se sont dit, ouais, mais il faut trouver un compromis. Parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils interdisaient quelque chose d'utile. Et le compromis, ça a été d'autoriser certaines familles, mais pas toutes, à avoir un téléphone dans une cabane, dans un petit cabanon. Souvent, c'est des cabanons qui tiennent à peine le coup. Quand il y a un coup de vent, tout part. Qu'on va mettre au fond d'un jardin. Mais le jardin Amish, comme je vous l'ai dit, le jardin Amish, il est grand. Donc ça peut être 300 mètres au fond du jardin, sous un tilleul ou bien sous un saule pleureur en général. Donc si vous voulez, le téléphone, vous allez vers le téléphone et le téléphone ne vient pas à vous. Donc ça, c'est acceptable. Ça, c'est un compromis que les Amish s'autorisent à eux-mêmes. Donc ils sont toujours sur la balance avec toutes les technologies. Ils sont, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé? Alors, leur nom, ils fixent tout ça. Dans mon livre, il y a une longue liste de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé. Des fois, vous dites, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils interdisent, par exemple, les tapis par terre? Plus personne ne sait pourquoi. Et quand vous parlez avec un ami, et puis que vous lui dites, mais enfin, bon, il y a des contradictions dans ce que tu dis. D'abord, les amis, ils n'aiment pas trop discuter de leur mode de vie. Mais quand ils acceptent qu'on discute, parce qu'ils nous connaissent bien, puis qu'on est amicaux, ils nous écoutent. Et puis leur argument, il n'y en a qu'un. Oui, tu as raison. But that's the way we live. C'est la manière dont nous vivons. Close, point, terminé, fin de la discussion. Parce qu'ils savent bien, toute leur histoire leur raconte que les mots, que toutes les disputes commencent par des mots. Donc ils font très très attention de quoi on discute. Par exemple, quand vous parlez avec ces gens-là autour de la table, il y a des thèmes qu'on n'aborde jamais. Tout ce qui concerne, par exemple, la sexualité, on n'aborde pas. Tout ce qui concerne la vie après la mort, on n'aborde pas. C'est interdit parce que seul Dieu sait, on ne va pas discuter avec Dieu à ce sujet-là. Tout ce qui concerne la politique, on n'aborde pas. Parce qu'ils savent bien que avec les mots commencent les disputes. Et ils l'ont payé très cher dans leur histoire. Donc ils font très très attention. Alors, juste pour en revenir à l'école, donc maintenant ces écoles Amish sont très. Il y en a partout, hein, dans tous les États-Unis, il y a des écoles Amish. Et l'enfant Amish qui arrive à l'école, il parle que le Pennsylvania Dutch. C'est la langue maternelle des Amish. Le Pennsylvania Dutch, ce n'est pas du hollandais de Pennsylvanie. C'est les Américains qui n'arrivent pas à prononcer Dutch. C'est du Pennsylvania Dutch en réalité. C'est devenu Pennsylvania Dutch, mais c'est de l'allemand de Pennsylvanie. Cet allemand, c'est un mélange de suisse-allemand du XVIe siècle, d'alsacien, quelques mots de hollandais, des fois il y a des vagues mots français, et c'est la langue maternelle de tous les Amish. C'est vraiment, ils discutent entre eux uniquement comme ça. L'anglais, c'est la langue des Anglais, des autres. On est tous des Anglais hein, pour eux. Donc vous, comme moi, comme ceux qui ne sont pas Amish, sont des Anglais, en souvenir de la colonisation anglaise aux États-Unis. Alors j'y arrive. Ils arrivent, ils parlent, l'enfant Amish arrive, il ne sait que le Pennsylvania Dutch. Et l'apprentissage se fait à ce moment-là de l'anglais, à l'école. Et l'apprentissage se fait par la lecture de la Bible, notamment. Et ils lisent la Bible en anglais, c'est la traduction du roi James. Mais comme ils savent, alors ils la lisent en anglais, mais ils ont toujours l'original de Luther en allemand en face. Alors ils arrivent à comparer, donc là ils apprennent petit à petit l'anglais. Et là ils vont aussi au contact des Américains, les enfants, on favorise ce contact avec les Américains pour que... D'abord, ils connaissent le monde américain, ils apprennent l'anglais. Et puis un jour, ils vont être baptisés. Alors, le baptême, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. À l'âge de 18 ans, la préparation, ça dure environ 6 mois. Et il faut que ces jeunes Amish aillent au contact du monde américain. C'est une période assez connue où... qui s'appelle Rumspringa, donc c'est une contraction de Herumspringen, donc d'aller à gauche, de sautiller à gauche et à droite. Et c'est très important. Les familles Amish, elles n'aiment pas trop ça hein, en même temps, parce que leurs enfants vont aller au contact de ce qu'ils veulent tenir. Mais ils le font quand même, il faut que ces enfants Amish savent ce à quoi ils vont renoncer un jour. Donc. Et c'est assez étonnant de voir que dans les années 1970, seulement 60% des enfants Amish devenaient Amish par baptême, parce que sur le plan culturel, ils sont Amish, sur le plan religieux, ils ne sont pas Amish. Ils sont Amish uniquement dès qu'ils sont baptisés. Et aujourd'hui, 93, c'est les derniers chiffres, 93% des jeunes enfants Amish deviennent Amish. Donc ils ont fait un choix, parce qu'ils ont connu le monde américain, et quand on connaît le monde américain et qu'on connaît le monde Amish, on comprend un petit peu ce choix. Et être Amish, c'est la prise en charge physique, intellectuelle, sociale, psychologique, de la naissance à la mort, comme ça. Et les Amish de Pennsylvanie, Philadelphie est à 2 heures, hein, donc ils vont vendre leurs produits, ils voient bien ce qui se passe dans le monde américain. Ils voient la violence, notamment. Et là, je vais quand même dire 2 ou 3 mots sur la violence, parce que ils ont une perception de la violence qui est très, 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 très large. D'abord, la non-violence physique, c'est bien clair, et je n'ai pas tellement besoin de vous expliquer ce que c'est que la non-violence physique. Mais pour eux, la non-violence, ce n'est pas seulement physique. Par exemple, ils refusent toute compétition, mais absolument toute. Et quand ils jouent à un sport, ils jouent au volleyball, notamment, ils adorent le volleyball, ils font des matchs entre eux, mélangent, filles et garçons sont mélangés, ils ne comptent jamais les points. Il n'y a jamais de vainqueur, il n'y a jamais de vaincu. Parce que le vainqueur, c'est une violence qui fait au vaincu. Imaginez Roger Federer, la violence qu'il ferait pour... Hein, c'est vraiment... Donc c'est, pour eux, nous on admire beaucoup Roger Federer, moi aussi, mais pour eux, ça n'a aucun intérêt, quelqu'un comme lui. Parce qu'il fait une violence aux autres. On se dit, attends, vous voyez des amis jouer, mais ils ne comptent pas les points. Alors quand même, de temps à autre, quand ils vont faire des matchs, parce qu'il y a des tournois, ils aiment bien aller avec les Américains, ils vont faire des matchs avec les Américains. Un jour, j'étais à Intercourse, et puis, à Intercourse, vous voyez, c'est le nom d'un des villages où les Amish font beaucoup de commerce. Je ne sais pas si vous savez l'anglais, si vous savez ce que veut dire intercourse. Ça veut dire, d'une certaine manière, rapport sexuel, n'est-ce pas, si on le traduit littéralement. Donc, ils vont dans un village qui s'appelle rapport sexuel. Bon. Et puis, Barbara Lapp, elle m'avait dit, écoute, nos enfants, ils vont faire des matchs, quand ils vont participer à un tournoi avec les Américains, intercourse, tu veux aller? Je dis, oui, bien sûr, je vais aller. Alors je suis allé, et puis les amis jouent très très bien au volleyball. Hein. C'est des gens qui, c'est vraiment des solides gaillards. Hein. Quand vous avez 6 chevaux comme ça, vous êtes un solide gaillard, forcément. Et c'était étonnant à voir. Il y avait beaucoup, beaucoup d'équipes. Et puis, il y avait les amis jouaient parfois contre eux-mêmes, contre d'autres amis, parfois contre des Américains. À la fin du match, qu'est-ce qui se passait? Les amis allaient s'asseoir dans leur coin pour boire du thé ou du café. Les Américains fonçaient au tableau noir pour marquer le résultat. C'est ce qui les intéresse, ils les amichent pas du tout. Donc, vous voyez, c'est une notion complètement différente de la non-violence. Une autre appréciation de la non-violence, c'est celle de, par exemple, le refus de toutes les assurances sociales. D'abord parce que s'il y a un problème, Dieu y pourvoira. Et si Dieu n'y pourvoit pas, la communauté y pourvoira d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez une assurance, quelle qu'elle soit, et puis qu'il y a un litige une fois, qu'est-ce que vous faites? Qui c'est qui va juger le litige? C'est le juge. Et le juge, c'est la violence de l'État. Donc, pas d'assurance sociale. Et par exemple, quand nous achetons des quilts pour les revendre, pour payer les traitements médicaux de notre fils, on achète. Quand je donnais de l'argent, je disais, mais j'aimerais avoir un récépissé, comme quoi, déjà pour la douane, j'avais besoin d'un récépissé. Alors, mais je ne sais pas, il mettait par exemple 600 $. Je disais, ouais, maintenant, il faut signer la date, puis il faut signer. Souvent, c'était sur des bouts de papier arrachés comme ça. Je disais, mais il faut mettre ta signature. Les amis, je ne signe pas. Parce que c'est je ne sais plus quel est. Dans la Bible, c'est dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Donc, il n'y a pas besoin de signer. C'est quand on fait du business, c'est oui ou c'est non. J'essayais de leur expliquer, maintenant, moi, j'ai besoin pour la douane, j'ai besoin d'une signature. Alors, d'accord, ils signaient de cette manière, PD, ce qui est une abréviation de paid, payé. J'ai jamais pu avoir une signature. Hein. Donc, alors, moi, je rajoutais par-dessus le nom du vendeur, mais en lettres capitales et tout. Puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, c'est aussi un monde. Et quand je vous dis, c'est l'Amérique ou n'importe qui fait des procès pour n'importe quoi, chez les amis, c'est exactement l'inverse. Donc, interdiction absolue de déposer plainte, de s'adresser à la justice. Il y a eu un exemple assez. Je vais voir l'heure qu'il est. Oh là. Il y a eu un exemple assez célèbre dans l'État de l'Ohio où il y a eu deux prisonniers américains qui se sont échappés d'un pénitencier, sont arrivés dans une ferme d'amis. Et puis là, ils ont violé la femme et ils ont tué l'homme. Ils ont été chopés assez vite. Et l'homme a été condamné à mort. Et pour les amis, c'était inacceptable. Donc, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à mort, quel que soit ce qu'il a fait. Et les amis ont fait des pétitions auprès du gouvernement de l'Ohio pour que ce condamné à mort soit gracié. Et ça a été. Et les journaux américains se sont parlé de ça, vous pouvez bien vous rendre compte, ça a été un buzz extraordinaire, et ce condamné à mort a été gracié. Donc vous voyez, c'est une manière de se positionner par rapport à la violence. Donc vous voyez, c'est un monde aussi quand même, c'est un monde assez limité, hein, donc, mais à l'intérieur de cette limite, hein, il y a une liberté, parce que c'est un choix de devenir amish, hein, comme je l'ai expliqué. Mais il y a des choses qui, par exemple, peuvent nous énerver aussi. Par exemple, le refus des instruments musicaux. Alors, moi, je sais pourquoi. Hein, mais un jour, je me suis dit, j'étais seul, ma femme n'était pas là. J'étais en Pennsylvanie, en Ohio, et puis partout où j'allais, je posais la question, pourquoi il n'y a pas d'instrument de musique chez les Amish? Donc j'avais beaucoup de réponses, des réponses farfelues, il y en a qui ne savaient pas, il y en a un ou deux qui savaient. Et puis j'arrive dans notre famille où je vivais à ce moment-là, et puis je parlais avec Samuel Fischer, la barbe, tout ça, assis dans son coin, un peu muet, il écoutait mes questions, ça l'embêtait que je lui pose des questions. Puis je lui dis, mais pourquoi, puisque vous chantez si bien, vous êtes des chanteurs extraordinaires, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'instrument de musique? Puis il ne répondait pas à Samuel, visiblement ça l'embêtait. Puis Annie, sa femme, elle était en train de nettoyer une casserole, puis elle écoutait la discussion. Puis tout à coup, elle se tourne vers moi, mais elle me dit, mais Jacques, elle me dit pas Jacques, elle me dit Jack. Mais il y a quoi de plus beau comme instrument que la voix humaine? C'était une assez bonne réponse. Mais la réponse, c'est que ça rappelle les persécutions. Hein, donc c'est le monde, c'est mondain. C'est les instruments qui permettaient de persécuter les Amish quand ils étaient dans les prisons. Les geôliers jouaient de la musique et se moquaient d'eux. Et c'est ça la raison. Mais bon, une fois, j'ai quand même entendu une femme Amish qui jouait de la musique à bouche. C'était Barbara Fischer, notre grand-mère d'adoption, qui est décédée maintenant, et qui était une femme extraordinaire. Et un jour, elle nous dit, dites rien à John. John, c'était son mari. Elle nous a attirés dans un coin. Et puis elle a mis sa jambe comme ça, là, sur un banc, hein, elle s'est appuyée sur un banc. Elle a sorti d'une poche une musique à bouche. Et tant qu'elle l'a rentrée, terminée, John, il n'a rien entendu. Donc, ça, quand même, ça, s'ils pouvaient, les amis, ils joueraient des instruments. Là, ils sont prisonniers d'une règle qui est quand même un petit peu spéciale. Donc, ces femmes amiches... Je vous ai dit tout ce qu'elles font, hein, elles font un travail extraordinaire. Et leur seul passe-temps, en réalité, c'est la fabrication des quilts. C'est une vieille tradition. Le patchwork, c'est pas les Amish qui ont inventé le patchwork. Hein, ce sont les croisés qui ont découvert l'art du patchwork en Palestine, qui l'ont ramené en Sicile, notamment. Les croisés se faisaient avec les chutes de tissu, des habits, pour se protéger contre les cottes de maille. Et en Sicile, les femmes siciliennes, elles ont dit, oh, mais ça c'est utile, on va faire des matelas avec ça. De la même manière, on va faire des matelas. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas assez épais, hein, donc on va faire par contre des couvertures, des quilts justement. Le vieux mot qui était utilisé à l'époque, c'était quilt, C-U-I-L-T-E, qui voulait dire oreiller, coussin ou matelas, non. Et puis cet art du patchwork est remonté la botte, est arrivé en France. Il y a eu beaucoup de patchwork fait dans le sud de la France. Il a passé en Angleterre, où là, alors il a devenu très très florissant, et aux États-Unis, où évidemment c'était dans à cette époque, au 16e, 17e, 18e siècle, on gardait tout, hein. Quand il y avait une petite chute de tissu, on la gardait. Quand il y avait les sacs à patates qui n'étaient plus utilisables, hop, on coupait des petits bouts, puis on utilisait ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est au contact des paysannes américaines que les Amish ont découvert l'art du patchwork, donc du quilt. Et ça correspondait bien à leur frugalité, n'est-ce pas? À leur manière de ne rien perdre, de tout conserver. Et encore aujourd'hui, les femmes Amish font les habits à la maison. Donc elles achètent le tissu sur les marchés américains, elles font leurs habits à la maison, découpent les petits morceaux qui sont encore utilisables, il y a les chutes, on va les garder. Et puis quand une des filles de la maison, ou bien la grand-mère doit acheter une de ses robes parce qu'elle est vraiment trop mal fichue, il y a toujours un petit morceau qu'on peut découper, qu'on va récupérer, et on va le garder pendant 6 mois, pendant 6 ans, pendant 60 ans. Et il n'y a pas de règle. Et quand une femme amiche va se mettre à faire un quilt, eh ben elle va puiser là-dedans. Ce qui fait que certains quilts, ils ont un mélange de tissus anciens, de tissus nouveaux. Alors, est-ce que ce sont des quilts Amish ou des quilts récents? Nous, on dit toujours qu'on date toujours un quilt d'après, non pas d'après les tissus utilisés, mais d'après la date de finition du quilt. Alors on fait un quilt dans trois circonstances. La première, c'est le mariage. Une fille amish, elle reçoit trois quilts et le garçon amish n'en reçoit que deux. Eh bien, vous savez pourquoi? C'est parce que la fille, elle fait elle-même un de ses quilts. Donc, elle est un peu aidée par sa grand-mère, par sa mère, par sa cousine, et puis elle en reçoit deux, vraiment. Mais comme elle en a fait un elle-même, et elle en a trois. Le garçon, il ne fait pas de quilt, donc il reçoit deux quilts. Donc, dans un nouveau couple, il y a cinq quilts de mariage. Ces quilts, on les utilise très peu. Donc, on les pose sur le lit, puis on les utilise dans des grandes circonstances, des dimanches, etc. Donc, ils ont bien résisté au temps. Assez bien, d'ailleurs, vous en avez quelques-uns là qui sont anciens, je vous les expliquerai tout à l'heure. Et puis, deuxième circonstance, c'est l'entrée d'Amish. Pardon. Parce que quand quelqu'un a un problème médical, ben, il faut payer quand même, hein. Puis comme ils n'ont pas d'assurance, alors la communauté va se réunir de l'argent. Mais quand vous allez faire une opération, par exemple, implantation d'un rein, un de nos amis s'est fait implanter un rein, à l'hôpital américain, ça coûte 100 000 $, hein, tout compris. Et je lui disais, mais t'as payé comment? Bon, d'abord, la communauté amish a fait de l'argent, puis ensuite, on a fait des ventes aux enchères. Et là, des femmes amish ont fait des quilts, ce qu'on appelle pour un benefit, pour bénéficier à quelqu'un, pour les ventes aux enchères. Vous en avez un là, le premier qui est là, ça a été fait pour aider quelqu'un à payer des factures médicales. Alors, c'est très généreux parce qu'ils vendent ces quilts aux enchères. Souvent, c'est des quilts qui valent 200-300 dollars, pas plus. Mais pour donner un coup de main, les gens vont les acheter jusqu'à 1500 dollars. Donc, vous voyez, le mouvement est dans les deux sens. Donc ça, c'est la deuxième circonstance pour faire des quilts. Et la troisième circonstance, c'est quand il y a des naissances. Alors évidemment, comme il y a 10 enfants par famille en général, qu'il y a des grands-mères, des arrière-grands-mères, des arrière-arrière-grands-mères, il y a beaucoup de crib quilts, les quilts pour berceau. Ceux-là n'ont pas tellement bien survécu, forcément. Vous pensez bien un bébé qui est sur un quilt, on le met à plat ventre ou bien on le met dessous. Donc c'est très très rare les crib quilts. Vous en avez là quelques-uns. C'est des quilts qui sont comme ça, en général, ces grandeurs-là. C'est des crib quilts qui ont été vendus pour l'entrée d'Amish. Ils n'ont pas été utilisés par des bébés Amish. Voilà, ça, c'est les trois circonstances dans lesquelles on va fabriquer des quilts. La question qui se pose toujours, est-ce que c'est de l'art, hein, ou bien est-ce que... Et je me souviens toujours, Mary Glick, il y a un quilt d'elle qui est là. Oui, il y en a même deux. Un jour, elle nous posait la question... Quand on regardait un quilt chez elle, elle disait, mais est-ce que c'est ça que vous appelez de l'art, vous, les Anglais? Alors, c'est pas facile de répondre à une question comme ça, mais j'ai répondu à la question dans mon livre sur les quilts amish. Je vous laisserai quand même lire, si vous le voulez. Hein. De mon point de vue, oui, d'une certaine manière, c'est en tout cas de l'art populaire, ça c'est certain. Mais il y a certaines pièces qui sont assez extraordinaires à voir. Il y a ici le deuxième quilt que vous pouvez voir là. C'est une femme qui s'appelait Rachel Stolfus, qui était une coloriste extraordinaire. Elle surpiquait très mal, donc elle donnait à sa sœur de surpiquer les quilts. Et sa sœur surpiquait encore plus mal, mais bon, c'est comme ça. Mais parce que le piquage, c'est comme une écriture manuelle, hein, donc ça sculpte le quilt. Si vous allez le toucher, après tout, vous sentirez très bien dans certains quilts, surtout ceux qui ont trois couches, parce que le surpiquage, vous le sentez. Vous le sentez très bien au passage. Et elle a fait ce quilt dans les mois qui ont suivi le décès de son mari. Et vous verrez, c'est un vitrail extraordinaire. Et elle a réussi, il y a beaucoup de noir dans ce quilt, il y a beaucoup, beaucoup de noir. Et elle a réussi à faire quelque chose de lumineux uniquement avec des couleurs sombres. Je trouve que c'est une pièce rarissime, vous verrez, en vous déplaçant là. Voilà, rapidement dit, ce que c'est que les quilts amish. Ici, derrière, tout derrière, là où il y a un quilt qui est spécial, c'est pour vous montrer l'affrontement de deux mondes. C'est un quilt américain. Il a tout ce que les Amish ne font pas. Il y a de l'application. Donc un patchwork, c'est ça, hein. C'est ça. C'est deux tissus qui sont mis comme ça. L'application, c'est deux tissus qui sont mis comme ça. Donc là, vous avez les fleurs sont appliquées, elles sont posées dessus. Et en plus de ça, il y a des tissus imprimés. Et les tissus imprimés, c'est mondain. C'est interdit. Et là, je vais clore là-dessus. Et après, vous pourrez mettre des discussions. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que le fameux Jacob Amman, qui a eu une dispute, c'était un Mennonite, s'est disputé avec les Mennonites à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693. Il a eu une dispute théologique, j'abrège la dispute. Et ceux qui ont suivi Jacob Amman ont été appelés les Amaniches, et par contraction, c'est devenu les Amish, qui, suite aux persécutions de Louis XIV, sont tous partis en plusieurs vagues aux États-Unis. Mais Jacob Amman, il était évêque de son État. Il ne savait pas écrire, mais il savait lire. Mais il était tailleur aussi. Et c'est lui qui a, une fois pour toutes, taillé le pantalon Amish. Il a dessiné et fait tailler le pantalon Amish. Vous avez des photos là, des pantalons Amish. C'est le pantalon à pont. Il n'y a qu'un modèle. Et pour les robes des femmes Amish, il n'y a qu'un modèle dans tous les États-Unis, encore aujourd'hui. Par contre, il a aussi interdit les tissus imprimés, parce que c'était la mondanité, la frivolité, c'était le mot utilisé. Et puis, il y a certaines couleurs qui sont interdites dans les habits, c'est des jaunes, et puis le rouge pétant. Quoi. Alors, le rouge pétant, on peut discuter, parce que qu'est-ce que c'est qu'un rouge pétant, tout ça. Mais le jaune, alors c'est une... Au Moyen-Âge, c'était une couleur maudite. Hein. C'était la couleur des traîtres, des félons. Et une fois, un sociologue balois, d'ailleurs, à qui je posais la question, m'a dit, mais tu sais, au Moyen-Âge, les prostituées, ils portaient le jaune. Donc voilà, mais on ne sait pas exactement, mais les Amish eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Si on pose la question, elles ne savent pas. C'est interdit comme ça. C'est comme ça, voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé. C'est un bref résumé du monde amish, quand même, mais voilà, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Oui ?
Merci, si vous pouvez dire votre nom.
Oui. Jean-Yves Sovilla, j'ai une question mathématique. Oh. Si une famille a 10 enfants, que les enfants ont 10 enfants, que leurs petits-enfants ont 10 enfants, ça va faire beaucoup de monde. Ouais, comment ils font alors ? Parce que la Terre, elle peut multiplier, ouais. La Terre arable en particulier.
Oui, vous avez raison. C'est une très bonne question. Donc, les premières implantations, c'était en Pennsylvanie, ensuite en Ohio, ensuite Indiana. Ensuite, les Amish étaient toujours plus loin. Ils ont même été jusqu'au Mexique, mais ça n'a pas marché au Mexique. Et il y a des communautés Amish au Canada, donc il y a aussi une possibilité d'extension. Mais il y a un problème, en effet, parce qu'il n'y a qu'un garçon qui va hériter de la ferme. Qu'est-ce que vont faire les trois autres garçons? Alors, s'ils ont les moyens, ils vont acheter une ferme, ou bien aller plus loin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que plus loin. Hein.
La terre est finie.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'autres métiers. Ils font des métiers de la terre, ou des métiers proches de la terre, et notamment construire des maisons. Mais ils habiteront toujours dans une ferme. Parce qu'il faut vivre près de la terre. C'est comme ça qu'on doit élever une famille, c'est près de la terre. Donc, ils vivent dans une famille, mais ils peuvent faire des travaux. D'autres travaux, notamment constructeurs. C'est des charpentiers extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu le film Witness, où on les voit construire une ferme en 3 semaines. J'ai souvent vu ça. C'est fantastique à voir. Les fermes brûlent assez souvent. Hein, donc, il y a toujours, dans un district religieux, il y a toujours assez de bois pour reconstruire 2 fermes. Donc quand une ferme brûle, celui qui a perdu sa ferme, il n'a pas de souci à se faire pour le bois. Il est prêt, le bois. Et la communauté va venir tout de suite pour aider à reconstruire la ferme. Alors, la première fois où j'ai assisté ça, j'arrive, puis Barbara me dit, tu as de la chance, il y a une ferme amiche qui a brûlé. Tu verras comment on reconstruit. Et alors, j'ai vu, c'était le vendredi. Le samedi, il n'y a rien eu. Le dimanche, je ne travaille pas. Et le lundi, je vais sur le lieu. J'étais là avec le directeur du collège de Puy, en plus. Il a vu ça, il est tombé des nues aussi. Et puis, il y avait là des tracts. Il dit, attends, ça ne correspond pas à ce que je raconte, moi, dans mes conférences. Ils n'ont pas de tracts, pas de moteur, les Amish. Ben non, c'était des Mennonites ou des Américains qui viennent. Ils débarrassent tout ça. Le soir, il n'y a plus rien. Le mardi, les Amish recommencent à reconstruire la ferme. Il y a tout le monde qui aide. Hein. Il y a les jeunes charpentiers, ils sont debout sur les fêtes. Il y en a qui coupent du bois. Il y a les grands-mères qui font du thé, des grands-mères plus jeunes qui font à manger. Il faut nourrir 250 personnes hein, qui sont là. Et le samedi, la ferme est terminée. C'est extraordinaire. C'est incroyable à voir. C'est incroyable à voir.
Je garde le crachoir un moment. Ouais. Deuxième question religieuse. Circoncision.
Aucune idée. Je crois. Écoutez, je ne sais pas.
Ah, vous savez pas.
Ah bah non. Que je vous ai dit, je ne peux pas tout savoir.
D'accord.
Mais.
Ouais, bon. Je sais pas. C'est d'habitude dans les sociétés qui font ça. C'est une cérémonie.
Ouais. Je peux dire à ma connaissance. Je pense pas. Non, mais peut-être pour des raisons médicales, mais pas pour des raisons religieuses. Je pense
d'accord.
pas.
D'accord. La troisième question. Que font-ils avec les déviants? Alors, les malades mentaux, les gens qui sont vraiment agressifs, parce qu'il y a des gens. Dans toute communauté, vous avez des
ouais.
gens qui sont des déviants.
Oui, oui. Alors, il y a des communautés, il y a, en effet, c'est une question que j'ai posée assez souvent, il y a des cliniques pour eux, spécialement pour eux, que les Mennonites, leurs cousins en religion, qui eux peuvent faire des études supérieures, ont créé des cliniques pour ces gens-là. En Indiana, en Ohio, et tout ça. Et donc ça existe, ils savent très bien, ils acceptent ça, ils acceptent même que des psychologues s'occupent d'eux, alors que c'est limite hein, pour le plan, est-ce qu'on peut discuter de ces problèmes-là? Non, et eux ils acceptent, mais c'est des Mennonites qui s'en occupent, d'autant plus facilement que les Mennonites parlent aussi le Pennsylvania Dutch. Voilà. Oui, bien sûr, mais il y a même des, écoutez, il y a des incestes, il y a tout eu chez les Amish, moins que chez nous, mais ça existe. Et il y a eu, là, ça a posé des problèmes, bien sûr, jusque dans les années 1980 environ, tous ces problèmes-là étaient réglés à l'intérieur de la communauté. Et un jour, il y a un évêque Amish qui a dit non, mais ça va pas, ça, nous avons une image. Que nous devons respecter notre propre image, et puis nous sommes des chrétiens croyants, on doit respecter la loi américaine aussi. Et depuis cette époque-là, les Amish dénoncent à la justice américaine s'il y a des incestes, s'il y a des viols, s'il y a des... Mais pendant longtemps, ça a été caché. Oui.
Pierrette Grosjean, je voulais savoir parmi les jeunes. Est-ce qu'ils décident tous de vivre de cette façon ou il y en a qui vont partir, qui ont envie de vivre autre chose, de connaître la musique, une autre vie?
Oui, on a, donc, mais j'ai dit les chiffres. Donc 60% en 1970 devenaient Amish, choisissaient d'être Amish, alors que maintenant 93% deviennent Amish. Mais il y en a, oui, dans la famille où nous vivions, chez Barbara, un jour, je me souviens, dans un coin, il y avait un malabar qui était là avec une veste en cuir, avec un aigle dans le dos, et tout ça, les cheveux coupés ras et tout. Puis, bon, il était là discrètement, puis Barbara lui servait un café, lui parlait de temps en temps, mais pas trop. C'était son fils qui était devenu pilote. Et il voulait autre chose, il a voulu vivre autre chose. Il avait, je crois, à peu près 40 ans à l'époque. Et quand le fils est parti, Barbara nous a dit, ben voilà, voilà ce qu'il a voulu faire. Nous, on ne s'est pas opposé, il n'a pas fait de baptême, hein. Donc il n'a pas rompu un vœu, donc il peut revenir. Il n'est pas exclu de la communauté, puisqu'il n'a pas rompu le vœu du baptême. Mais j'espère qu'un jour, il reviendra dans la communauté. Elle rêvait, hein, bien sûr, mais oui, il y en a qui deviennent, qui font, surtout ceux qui veulent faire des études. Et ceux qui veulent faire des études, alors ils ont quand même une possibilité de quitter la communauté Amish pour devenir Mennonite du vieil ordre. Donc qui ont les mêmes croyances religieuses, mais qui autorisent la technologie, qui autorisent la voiture et qui autorisent les études modernes. Mais ceux-là, ils sont habillés comme des Amish du vieil ordre. Ça prête à confusion pour le touriste. Ils disent, ouais, mais enfin, on nous raconte qu'ils ne vont pas en voiture, qu'ils ne font pas d'études, qu'ils n'ont pas d'électricité. Non, alors c'est des Mennonites du vieil ordre. Mais là, il faut déjà être spécialiste pour faire la différence. Si, il y a un moyen de faire la différence si vous êtes en Pennsylvanie. Ces Mennonites du vieil ordre, ils ont des buggy tout noirs. C'est-à-dire pas les Amish. Ça, c'est un moyen de faire la différence.
Roger, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'expérience patriation, en fait, de ces anabaptistes, depuis quand sont-ils partis aux États-Unis? Et est-ce que l'on sait le nombre de personnes qui ont été concernées? Est-ce que ça a duré sur une longue période? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet?
Oui, ça a duré sur plusieurs, sur deux siècles et demi, par différentes vagues. Ça a commencé, la création du mouvement Amish, et ça a commencé, c'est 1693, et en 1713, Louis XIV a biffé les privilèges qui étaient accordés aux anabaptistes, parce que c'était des agriculteurs extraordinaires. Donc ils avaient eu beaucoup de privilèges, dont celui de ne pas payer l'impôt militaire et de ne pas être enrôlable dans les armées. Et là, d'un trait de plume, il a biffé ça. Et alors tout de suite, quand je dis les anabaptistes, ça comprend les mennonites, les amish, les utérites, ont quitté l'Europe dans deux directions. Une partie sont allés vers l'Est, en Russie, il y a eu beaucoup de mennonites en Russie. Ceux-là, ils n'ont pas fait le bon choix, forcément. Et puis, une autre partie, par vagues successives. Alors là, je n'ai pas les dates, hein, mais dans mon livre, c'est décrit toutes les vagues, sont arrivées aux États-Unis. Le premier bateau de mennonites, d'Amish, mélangé d'ailleurs, qui est arrivé en 1734. Et ils n'étaient pas très nombreux. D'abord, il y en avait peu qui survivaient à la traversée. Et les Amish étaient quasiment en extinction à la fin du 19e siècle. Il y en avait 5000 Amish. D'où le titre un peu de mon livre et d'autres livres, c'est l'énigme Amish. Hein. Comment est-ce qu'on peut survivre dans le monde américain en refusant à peu près tous les bienfaits de la technologie américaine, en étant que 5000 il y a une centaine d'années. Donc, mais voilà, je pense que vous avez un petit peu compris comment ça s'est passé.
Oui, Georges Bess, vous ne nous avez pas parlé des boutons des vareuses. C'est toujours d'actualité.
J'ai pas pu. Je ne peux pas parler de tout. Oui. Non, mais bien sûr, c'est toujours d'actualité. Les boutons sont interdits, bien sûr. Ça, c'est un souvenir de la Révolution française, où les petits marquis étaient boutonnés comme ça. Alors, bon, ils ont des boutons, hein, c'est pour tenir la... Moi, j'ai des bretelles comme ça, je les tiens comme ça. Eux, c'est, ils les tiennent, les hommes, avec des boutons. Mais sinon, sur les habits, c'est des crochets. Il n'y a pas de boutons, c'est toujours d'actualité, oui, absolument. Oui. Oui. Et puis, ce qui est toujours d'actualité, évidemment, c'est l'organdie de Saint-Gall. Les jeunes dames, les jeunes femmes, les âmes, les grands-mères, tout ça, portent le bonnet blanc d'organdie, j'ai oublié d'en amener un. Et puis par-dessus, elles mettent la coiffe, la fameuse coiffe que j'ai aussi oublié d'amener. C'est de l'organdie importée de Saint-Gall encore aujourd'hui. Oui. Donc c'est la tradition. Alors c'est pas l'habillement amish, ce n'est pas un habillement religieux. Donc c'est une identité culturelle. Hein. C'est une manière d'être différent des autres. Mais la coiffe en organdie blanc, bien sûr que ça a quand même une signification. Hein. C'est un symbole de pureté. Et la jeune fille amish qui va... se faire baptiser, elle part au baptême, elle porte un tablier d'organdie blanc. Symbole qu'elle est encore pure. Et une fois qu'elle est baptisée, elle va prendre son tablier d'organdie, elle va soigneusement le plier, le mettre dans une malle, et on le lui remettra le jour de sa mort. Mais ça n'a pas une signification religieuse tellement marquée.
Pour que tout le monde entende.
Oui, je voulais savoir, en fait, quel rapport ils avaient avec l'argent, les Amish, parce qu'ils en ont quand même besoin, j'imagine.
Oui, oui.
Mais c'est quelque chose qui peut être aussi pervers dans ces sociétés-là très traditionnelles.
Donc ils placent leur argent sur un carnet à la banque, mais ils n'ont pas le droit de rien acheter d'actions, de fonds ou de comme ça. Donc, vous savez, c'est des agriculteurs, ils ont besoin d'argent liquide très souvent, donc... Non, mais ils ont un rapport normal, mais simplement, ils ne spéculent pas. Voilà. Et donc, pour votre première question, sur si on l'a reçu ou si on l'a acheté, non, on l'achète. On a tout acheté, nos quilts. On en a reçu deux ou trois qui ont été donnés à notre fils. Alors, ça, c'est différent. Oui.
Quand vous avez Anne Perrier, quand vous avez parlé de enchères des quilts...
Oui.
Qui les achète? Est-ce que ça peut être l'extérieur
oui.
qui les achète?
Oui.
Ah voilà, c'est ça. Donc ils vont quand même vers les Anglais.
Oui, parce que les Amish adorent. Ils sont comme les Anglais. Ils adorent les ventes aux enchères. C'est un passe-temps hein, pour les Amish, mais c'est aussi un passe-temps très couru pour les Américains. Et alors n'importe qui passe, passe son temps, qui passe peut en enchérir. Mais les Amish enchérissent plus que les Américains parce que c'est aider quelqu'un de leur communauté. Donc, si un quilt vaut 200 dollars, ils peuvent en mettre jusqu'à 1500 dollars. Un Américain ne fera pas ça. Ils connaissent bien les quilts, les Américains aussi.
Monique Cosandet, on a parlé du problème de l'argent. Alors, est-ce que l'argent est mis en communauté ou chacun reçoit un salaire? Enfin, quel est le rapport avec l'argent comme ça?
Pas du tout. Donc, on parle de communauté, mais chaque famille fait ce qu'elle veut. Donc, elle s'organise comme elle veut.
C'est par famille.
Oui, c'est voilà, par famille. D'accord. C'est par Merci. Famille. Ils utilisent le mot Gemeinde, donc Gimi. Hein, Gimi, c'est leur, le mot dialecte de Gemeinde, la communauté. Donc, ils sont organisés en communauté. Ça, c'est pour vivre ensemble. Mais dans ces communautés, vous en avez un qui peut ne pas faire de... Il y en a beaucoup qui faisaient du tabac. Il y en a qui font que du maïs. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont ébénistes. Il y en a... Donc, chacun s'organise comme il veut. Il y a des Amish plus riches que d'autres. Mais un Amish plus riche que d'autres, il sait tout de suite ce qu'il doit faire avec son surplus. Donc, automatiquement, il y aura une entraide qui va se mettre en route. C'est étonnant à voir, quoi. Et d'une certaine manière, nous, ma famille, on a bénéficié de cette entraide Amish à cause de notre fils, quoi. Ou par notre fils, plutôt.
Christine Leonardi, vous nous avez dit que votre fils a maintenant 37 ans. Est-ce qu'ils ont pris votre fils en charge ou en soin d'une manière particulière?
Pas du tout. Ils n'ont pas du tout pris en charge. C'est nous qui l'avons pris en charge. Et on a appris dans une clinique aux États-Unis à le prendre en charge, mais ça n'a rien à voir avec les Amish. Par contre, les Amish font une prise en charge fabuleuse des handicapés. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter. Hein. Peut-être je vais dans les écoles Amish normales, mais je vais dans les écoles Amish pour handicapés aussi. Ça m'intéresse beaucoup, la prise en charge, c'est extraordinaire. Donc, une fois, on avait eu un procès avec l'AI, et puis au tribunal, l'expert de l'AI était venu et avait répondu à une question du président. Combien de personnes il faudrait-il pour un enfant comme David Légeret? L'expert de l'AI avait dit, il faut 5 personnes, en tournus, comme ça. Donc, vous voyez... Chez les Amish, il n'y a pas de problème. Hein. La prise en charge, c'est la même. Il faut aussi 5 personnes pour un polyhandicapé, mais il y a toujours quelqu'un qui est là. Et ces quelqu'un a été formé, ceux qui ne font pas d'études, étaient formés sur place. Et pour eux, c'est la meilleure formation. Mais ils ne sont quand même pas stupides. Ils savent lire des livres aussi. Ils savent se faire conseiller par les Américains. Et alors, la technologie moderne, dans ces écoles Amish, elle est autorisée. Vous avez, par exemple, nous avions, malheureusement il est décédé, mais Leroy Stolzfus, c'était un Amish, il avait 22-23 ans, on est devenu grand copain, et il était dans un fauteuil, il était attaché parce qu'il était tellement shaky, hein, il tremblait comme ça, et il arrivait à m'envoyer des mails, lui. Donc il lui fallait 10 minutes pour faire une phrase comme ça longue, et la technique c'était ultra moderne, donc maintenant on la connaît aussi chez nous, mais à l'époque on ne la connaissait pas, c'était... Il avait un keyboard, un clavier. Il regardait la lettre. Et il avait une caméra qui regardait son œil. Et si son œil restait une seconde et demie sur la lettre M s'imprimait. Donc il arrivait à envoyer des mails. Et son frère, aussi handicapé, actuellement, il est lui aussi... Il ne parle pas, par contre, mais... C'est lui qui enseigne l'usage de l'ordinateur à ses amis Amish. Oui, bien sûr. Ils acceptent les ordinateurs quand c'est nécessaire. Et pour des handicapés, des polyhandicapés, pour des malades, c'est nécessaire. Donc c'est une technologie acceptable. Mais elle n'est pas acceptable pour l'Amish moyen.
Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas écouter la radio même.
Oui. Mais toujours.
Alors, je me dis, le Wi-Fi quand même.
Oui, non, mais toujours.
Il y a des connexions qui peuvent être beaucoup plus graves que la radio.
Oui, non, ils acceptent pas la radio encore aujourd'hui, donc. Hein. Mais dans des cas particuliers, il y a des compromis possibles. Et c'est un compromis. J'ai assisté en avril dernier à une séance d'hypothérapie. C'était dingue. J'étais amené par un ami Amish, il est évêque. Alors quand je me pointe avec l'évêque, c'est facile, je suis là au milieu. Il y avait 2500 personnes, j'étais le seul anglais avec l'évêque. Donc je pouvais faire des photos, j'ai fait des photos superbes. Et là, il y a une certaine technologie qui est utilisée. Il faut expliquer à 2500 Amish ce que c'est que l'hypothérapie. Il y avait des immenses baffles, comment on dit en français, des haut-parleurs. comme au stade de la Pontaise, mais il y avait plus de monde qu'au stade de la Pontaise. Et puis, donc il y avait une technologie qui était utilisée. Et là, il y avait des chevaux dressés pour ça, pour apprendre aux handicapés, c'était souvent des petits, mais pas forcément, le mouvement, hein, pour leur apprendre le mouvement, sentir le mouvement. Vous aviez des enfants à plat ventre sur le cheval, sur le dos, de côté, tout ça. Et ces femmes, c'est une spécialisation qu'elles ont faite. Et elles se sont fait évidemment enseigner par des Américains, donc ça c'est bien clair. Donc, oui.
Pour les aveugles, ça se passe comment?
Écoutez, j'attendais cette question, mais je ne me suis pas penché sur la question. J'ai simplement vu, parce que je vais souvent ici, à Intercourse, j'ai souvent vu qu'il y avait une salle pour les aveugles, mais moi je me concentrais sur les polyhandicaps. Donc je m'excuse, je ne peux pas répondre à la question, mais ils font le braille, ça c'est sûr, hein. Oui, oui. Et une fois, j'étais aussi, ils font aussi autre chose, j'étais dans une... Barbara me dit, écoute, ma petite fille Barbara, elle est enseignante dans une maison, dans une école pour handicapés. Tu aimerais aller voir? Je dis, oui, bien sûr, on va aller voir. On était avec ma femme, mon fils, puis on est arrivé. Et là, la petite Barbara, la jeune Barbara, qui avait 22 ans, et elle avait fait monter tous les élèves handicapés. Il y avait toutes sortes d'handicapés qui nous chantent quelque chose. Et je vois Barbara qui fait... Je me dis, mais j'avais pas vu qu'elle était handicapée. Jusqu'à ce que je comprenne, elle n'était pas handicapée. Elle dirigeait ça en faisant le signe des langages. Le langage des signes, plutôt. Donc, vous voyez, ils sont très au courant de ce qui se passe. Oui. Oui. Oui.
Vous avez souvent mentionné le mot d'évêque.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie?
Pas tout à fait, c'est très spécial encore. Bon, je vous avais dit qu'on finirait à 2 heures. Hein. Non. Quand une communauté, il y a toujours deux ministres du culte et un diacre dans une communauté, et il y a un évêque qui chapeaute deux communautés. Alors quand on choisit un ministre du culte, c'est la loterie divine. Donc, alors tout le monde a le droit de vote. Alors l'évêque est dans un coin. Il prend un petit bout de papier, et puis chacun à tour de rôle, les hommes, les femmes vont, et puis ils vont susurrer le nom de Pierre, Jacques, Jean, puis l'évêque, il note. Et puis tous ceux qui ont 6 voix, ils passent au deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est la loterie divine. Là, on prend, imaginons qu'il y ait 7 nominés, on va prendre un petit bout de papier avec un verset biblique, qui peut varier d'une communauté à l'autre. On prendra 7 Bibles, on va mettre le verset dedans, on va mélanger les Bibles, et chacun des 7 nominés va tirer une Bible. Et celui qui tire la Bible, dans laquelle se trouve le verset, il est immédiatement, mais à la minute même, il est ministre du culte de la communauté. Et l'élection se fait la même chose pour l'évêque. Mais ils ont pas, c'est pas eux qui décident pour la communauté. Quand il y a un problème, c'est eux qui proposent des solutions. N'est-ce pas? Ça, c'est la tâche de l'évêque et des ministres du culte, pour proposer la meilleure solution par rapport à leurs croyances. Et ensuite, c'est mis au vote. Mais ça peut durer longtemps, hein, les discussions, c'est vraiment très, très, très lent. Le palais fédéral est ultra rapide par rapport à ça. Donc, c'est très, très lent. Et quand ils ne sont pas d'accord entre eux, eh bien, ceux qui ne sont pas d'accord, ils quittent la communauté, ils vont créer une autre communauté. C'est pour ça que la communauté d'à côté peut avoir des règles différentes. Et ça, quand on n'est pas au courant de ça, ça, on se dit, attends, on nous raconte n'importe quoi sur les Amish. Ceci est interdit là, puis c'est autorisé là. Oui. C'est ce qu'on appelle les règles mineures. Les règles mineures, c'est les règles de tous les jours. Ça peut varier d'une communauté à l'autre. Mais il y a les règles majeures, c'est les règles religieuses, c'est les règles qui ont été écrites en Europe en 16e et 17e siècle. Et c'est la confession de foi de Schleitheim en 1527, c'est un village près de Schaffhouse, par là-bas, et la confession de foi mennonite de Dordrecht en 1600 et quelques, qui est la base de leur croyance et de leur organisation interne. Mais si vous voulez comprendre mieux l'organisation interne des communautés Amish, vous lisez le serment sur la montagne, et puis vous traduisez ça en Amish, et puis vous voyez comment les Amish sont organisés.
Merci infiniment. Effectivement, on pourrait continuer toute la journée. C'est vraiment passionnant aussi pour l'éclairage que ça donne sur notre façon de vivre ici. On peut poursuivre avec l'énigme Amish, la version audio de la bibliothèque sonore, ou bien avec les livres qui sont ici. Merci infiniment. On va prendre l'apéritif. On peut continuer à discuter à ce moment-là. Merci infiniment, Monsieur Légère.
Merci. Merci.